Pour la première fois, le Théâtre du Briançonnais accueillait un spectacle du IN du Festival d'Avignon, Une ombre vorace, les 29 et 30 janvier. Une création du metteur en scène argentin Mariano Pensotti. La pièce raconte deux histoires qui se répondent. Celle d'un alpiniste parti affronter l'Annapurna et celle d'un acteur chargé de l'incarner au cinéma. Deux récits parallèles, deux solitudes, deux quêtes, l'une dans la montagne, l'autre dans le jeu et la mémoire. À travers cette mise en abîme entre réel et fiction, le spectacle interroge l'héritage, l'identité et ce qui nous pousse à gravir nos propres sommets. Nous avons rencontré les deux comédiens de la pièce avant leur représentation pour parler de cette œuvre singulière, de leur travail sur scène et de ce dialogue fascinant entre théâtre et haute montagne.
Je m'appelle Elios Noël, je suis acteur dans Une ombre vorace.
Et moi je suis Cédric Eckhout et je suis acteur dans Ombre vorace.
La première question qu'on souhaitait vous poser, c'était tout d'abord de savoir comment Une ombre vorace a-t-elle vu le jour, comment le metteur en scène en est venu à créer une pièce inspirée de l'histoire de Jean Vidal.
À la base, c'est une commande du Festival d'Avignon qui, dans le cadre du festival, programme une pièce itinérante qui, pendant tout le festival, va se promener dans les communes autour d'Avignon. Et donc, le festival a commandé à Mariano Pensotti une pièce avec un cahier des charges un peu précis, un décor assez léger, en tout cas qui puisse être monté et démonté dans la journée, deux comédiens au plateau, je crois, francophones, et pas de sous-titres. Je crois qu'après, ça doit être à peu près tout, la thématique après appartenait à Mariano Pensotti.
Oui, je pense juste qu'on lui a quand même confié le livre de Pétrarque, dans mon souvenir. Il me semble que Magda avait dit ça, qu'il lui avait remis le livre, qu'il l'avait lu, et donc il en avait pris une source d'inspiration.
Mais le livre de Pétrarque, L'ascension du Mont Ventoux.
Voilà.
Et est-ce que avant d'être contacté donc par le metteur en scène, vous aviez connaissance de l'histoire de Jean Vidal ou vous avez découvert cette histoire avec l'arrivée du spectacle ?
Alors absolument pas, puisque l'histoire de Jean Vidal n'existe pas, donc il n'y a pas d'histoire de Jean Vidal. Donc je l'ai vraiment découverte, on l'a découvert en lisant la pièce. On a dit qu'on peut spoiler, on spoil. Hein.
C'est de la fiction, ouais. C'est de la fiction. Jean Vidal, l'auteur, il est argentin, donc il a pris un nom français assez commun, un peu lié à la montagne, je pense, il a fait des recherches.
Mais encore, je crois qu'il n'y a pas de Jean Vidal qui apparaît, c'est pas le nom d'un alpiniste connu, enfin, il n'y a pas de Vidal, je crois pas.
Et donc, pour savoir comment la collaboration avec Mariano Pensotti et son équipe artistique s'est-elle fait, est-ce que vous aviez déjà collaboré avec lui? Ou c'est donc cette pièce Une ombre vorace qui vous a fait faire sa rencontre
Non, c'était la première fois. C'était une rencontre. Moi, j'avais eu l'occasion de voir ce spectacle précédemment, mais je ne l'avais jamais rencontré et je n'avais jamais travaillé avec lui, non.
Non. Moi, non, jamais travaillé. Et puis même, toi, tu avais vu de ces spectacles, moi, non. Non, c'est vrai. Moi, je l'ai vraiment rencontré pendant les auditions qui avaient lieu à Paris.
Qu'est-ce qui vous a poussé à aller à l'audition pour Une ombre vorace?
Moi, je voulais travailler avec Mariano Pensotti. Je voulais travailler avec Mariano Pensotti, j'avais vu des spectacles. Voilà, j'avais très envie. J'avais vu un spectacle de lui qui s'appelait Los Años, puis d'autres. Mais je parle souvent de Los Años parce que c'était vraiment extrêmement impressionnant. Et de nouveau, avec deux moments parallèles de vie, etc. et tout, et une résolution un peu philosophique, comme ça, très très belle.
Moi, j'avais pas vu ces pièces avant. Je dirais que c'est un combo entre répétition à Buenos Aires, pratiquer la langue espagnole et puis récit de montagne, parce que de toute façon la pièce n'était pas écrite au moment des premières rencontres. Je dirais que c'est tout cet ensemble-là où je me suis dit, y a quelque chose qui faisait très envie.
Maintenant, une question un peu plus à propos du spectacle, à savoir comment est-ce que vous avez construit vos personnages à titre individuel et ensemble, puisque je comprends qu'il y avait quand même des similitudes entre les deux. Comment est-ce que vous avez géré cette relation fictive entre les deux personnages ?
La manière d'écrire de Mariano Pensotti emprunte, d'où le fait que c'est normal, on a tous les éléments pour penser que Jean Vidal et Michel Roux sont des personnes réelles, puisque le type d'écriture emprunte, comment dire, au code du documentaire. Une espèce de pacte avec le public qui fait que, a priori, si on n'est pas un connaisseur du milieu de l'alpinisme ou du cinéma ou de l'audiovisuel, il n'y a pas de raison de ne pas croire que Jean Vidal n'a pas vécu une aventure incroyable sur l'Annapurna et que Michel Roux joue dans une série à la télé, bon, a priori. Construction du personnage, je ne sais pas trop. Moi, je me suis... Ça ne s'est pas fabriqué comme ça. Après, comme il y a ce pacte de vérité, je dirais que c'est de prendre tout ce qui est dit pour argent comptant. Enfin, ça marche pour la pièce de Mariano Pensotti et puis en règle générale au théâtre, mais essayer de prendre tout pour soi, pour faire que tous ces mots soient à l'intersection entre soi et le personnage qui s'appelle Jean Vidal ou peu importe.
Oui, je pense que je me rapproche de ce qu'Elios dit. De construction de personnages, non, pas dans ce type de travail. Il y avait d'abord un énorme travail qu'on dirait plus technique à faire à la base. C'est-à-dire qu'il y a énormément de textes, il y a beaucoup de techniques, parce que l'air de rien, il y a un mur, il y a des machines. Ouais. Et Mariano a d'abord commencé par ça. Donc on s'est d'abord habitué à ça, à toute la structure, à tout ce qui se voit et tout ce qui s'entend. Mmh. Et puis petit à petit, en fait, moi je crois très fort en ça, et je pense à lui aussi. Je crois que les mots font naître un personnage au public et... On a évidemment été curieux de regarder des choses sur l'alpinisme, sur des acteurs qui jouent des personnages réels. Oui, on a été lire là-dessus. Enfin, on en a parlé, discuté, ouais. Mais un travail à proprement parler. Et par contre, dans la relation entre nous, je rajouterais juste qu'on a eu l'occasion et la chance d'aller répéter à Buenos Aires, parce que l'équipe était là-bas et c'était plus facile de nous emmener là-bas. Et comme on avait reçu le texte très tard, avant de partir, on se retrouvait dans un système où tous les jours, on répétait des 9h du matin jusqu'à 15h. Et puis après, on se lâchait dans la ville. On prenait chacun une rue de Buenos Aires et on se disait rendez-vous dans 3h là-bas. Et sur le temps, on étudiait. Et quand on arrivait au bout, on se prenait un petit verre, on se faisait des italiennes, comme on dit dans notre jargon, donc on se fait le texte. Et je pense que ça a lié un lien, nous, parce que aussi, vous le verrez dans le spectacle, c'est quand même deux hommes au début qui marchent ensemble. Enfin, c'était drôle, il y avait des choses t'avais parlé des paysages qui s'inscrivaient de ce que tu avais vu en Argentine, que tu as encore. Et je pense aussi que tout ce processus-là... c'est peut-être quelque chose que les gens n'ont pas toujours idée. On se dit, les acteurs, ils travaillent juste sur des personnages. Non, je pense qu'on travaille aussi sur le moment de la répétition, sur ce qui arrive, en fait.
Et quel a été pour vous le moment charnière, si je puis dire, de la création, celui où vous avez senti que la pièce avait trouvé, en quelque sorte, sa forme finale, si forme finale il y a?
Pour compléter ce que tu disais, Cédric, c'est vrai que dans l'écriture, il y a quelque chose d'assez formel. C'est-à-dire qu'on va entrelacer, la pièce va entrelacer des moments plus de monologues avec des monologues parallèles. C'est-à-dire l'un va parler, puis l'autre. Et des moments de dialogue qui finalement sont assez brefs dans la pièce. Ce côté formel de l'écriture rejoint quelque chose... Moi, je pianote. J'ai fait du clavecin quand j'étais plus jeune, mais m'a plus rappelé un rapport à la musique. C'est-à-dire, avant d'entendre la pièce, franchement, dans mon souvenir, j'ai l'impression que j'ai commencé à l'entendre et même à l'éprouver dans les deux derniers jours, peut-être la générale, voire même la première. Je dirais que sa fabrication, pour en arriver là, c'était tellement technique que... Voilà, il fallait déjà être très solide dans la mémoire et d'en incorporer tous ces mouvements avant de pouvoir entendre ce que ça produit.
Je suis assez d'accord. Enfin, moi, je n'ai pas fait de musique, mais c'est marrant, j'avais pensé à un truc. J'ai fait de la danse quand j'étais petit et beaucoup de chorégraphie, du jazz. C'était très à la mode quand j'étais gamin. Et j'ai fait beaucoup ça et j'ai beaucoup pensé à ça avec la pièce parce que souvent, quand on fait des chorégraphies genre de cette époque-là, c'était quelque chose qu'on comprend à la fin. Et c'est vrai que même en parlant de personnages ou même d'émotions ou de choses comme ça, je me souviens que dans les derniers filages, donc ce qu'on appelle faire toute la pièce, on en a fait beaucoup. Et c'est vrai que c'est dans les derniers que j'avais comme ça des émotions qui venaient, que je me disais, il y a une porte là, peut-être que je comprends, parce qu'on comprend vraiment, je ne sais pas quand est-ce qu'on comprend, mais voilà.
Donc vous l'avez mentionné tout à l'heure, Ombre Vorace est né sous l'impulsion du Festival d'Avignon en 2024. Ouais. Avant de lancer donc une tournée dans la France, est-ce que vous considérez que avec le temps la pièce évolue ou on reste toujours sur une structure idem tout au long du temps?
La structure en tant que telle va pas évoluer. Après, la manière qu'on va avoir de l'habiter, de la respirer, de passer peut-être d'une plus grande fébrilité au début à peut-être maintenant on en est à la 60e ou 70e, Peut-être on est plus à l'aise dans cette mécanique, mais du coup, c'est dangereux parce qu'on est trop à l'aise. Donc, en fait, il faudrait renouer avec la fébrilité du début. Je ne sais pas si j'ai l'impression que ça évolue, bien sûr. Elle évolue, pas formellement, mais nous, dans la manière de respirer là-dedans.
Ouais, puis il y a tellement de tiroirs dans cette pièce, enfin, il y a tellement de niveaux de lecture, tu sais, on se le disait la semaine dernière, on se disait qu'il y avait des choses, vous voyez, c'est comme quand vous relisez enfin je sais pas, moi j'aime bien relire la poésie par exemple que vous avez lu quand vous étiez adolescent ou jeune adulte et vous la relisez avec les années qui passent et il y a des images qui apparaissent plus de la même manière, enfin, pour moi c'est très typique de la poésie et là dans son écriture à Mariano... de la jouer, il y a des fois qu'il fait « Ah, tu dis ça, mais en fait, je me rends compte, ça... enfin, c'est ce que tu me disais l'autre fois. » Et je dis « Mais oui, ça arrive tout. » Enfin, il faut le lire aussi pour le comprendre et certainement le voir. Mais je veux dire, ça... oui, c'est quand même 1h20 de texte, mais de texte en action. Ce n'est pas du texte dit comme ça, c'est très concret, quoi. Enfin...
Ce sera peut-être du spoil, mais selon vous, c'est quel moment où la tension est la plus haute au cours du spectacle? Le moment où la sensation atteint un peu son apogée, si je peux le dire comme ça, dans votre ressenti à vous?
Je ne sais pas du tout.
Non, mais dramaturgiquement, il y en a un, c'est sûr qu'il y en a un. Ouais, on n'est pas dramaturge.
Ouais, mais moi, je pense que l'endroit où c'est pour moi, ce n'est pas du tout l'apogée pour moi. Au moment où on est dans l'aveu dans l'histoire de Jean Vidal, de ce qu'il a vécu sur la Napurna et dans... Allez, je spoil. Dans la retrouvaille avec son père. Il va retrouver son père, alpiniste, lui aussi, qui a disparu quand il avait 8 ans. Et puis, pour échapper à une tempête, il va tomber dans une crevasse. Et au fond de la crevasse, il y a quelqu'un qui est complètement congelé, et c'est son père. Mais évidemment, c'est un peu l'acmé du truc. Mais c'est marrant parce que moi, chaque fois que j'y arrive, j'essaie justement de ne pas le faire comme un acmé. Ah non, de vraiment lever le pied vraiment comme en voiture avant un dodane pour dire, puisque la pièce c'est pas un coup de théâtre, probablement qu'on l'avait deviné, probablement qu'on avait senti, donc c'est pour ça que c'est pas, j'imagine que 80% des gens sont encore, donc au contraire j'essaie d'alléger pour surtout pas en faire quelqu'un qui fait une révélation et tout le monde fait un peu bah merci, on avait compris, voilà. Donc je dirais qu'émotionnellement moi ça va pas se jouer là-dedans, je sais pas où ça se joue d'ailleurs.
Je sais pas. Je réfléchis, je me dis que dramaturgiquement, ça doit être ça. Ça doit être cet endroit-là. Il faudrait demander à l'auteur. Parce que parallèlement, moi, je dirais que c'est le moment où toi, donc, où l'alpiniste retrouve vraiment son père. Et vous verrez, ça se passe tout le temps en parallèle. Et de l'autre côté, je fais l'acteur qui, lui, rejoue la même scène dans un film. Et c'est vraiment l'apogée du... J'ai envie de dire du film qui est un peu kitsch, qui va dans les extrêmes que c'est différent comment c'est écrit. Et qui crée aussi un vrai parallèle avec sa vie à lui. Donc j'ai l'impression que c'est le moment quand même...
Le mur central, il joue un rôle très fort dans la mise en scène, je suppose. Comment est-ce que vous évoluez sur scène vis-à-vis de ce mur central? Quelle place il occupe en fait sur la scène à vos côtés?
Ce mur, il est en même temps très concret et abstrait à la fois. C'est un mur qui sépare, c'est un écran de projection... C'est un puissant fond, c'est la page d'un livre qu'on tourne, c'est une montagne à gravir, c'est beaucoup de choses en fait dans sa pure abstraction, juste un mur qui tourne, mais c'est vrai qu'il est, assez multiple.
Ouais, il est multiple, c'est un personnage en lui-même, pour nous en tout cas, je pense pour le spectateur aussi, mais oui.
Donc, à l'image de beaucoup de pièces de théâtre, une ombre vorace est pensée pour tourner dans différents espaces, différents milieux. Est-ce que votre rapport au public, il change et il évolue en fonction des milieux dans lesquels vous vous produisez?
Oui. En fait, déjà, on l'a joué en extérieur aussi. Oui. Donc déjà, rien que l'extérieur-intérieur, c'est un monde en soi. Parce que du coup... grâce à cette scénographie qui est incroyable, puisqu'il y a toute une partie du mur où c'est un miroir. Donc il y a des moments où le miroir reflète la lumière du coucher du soleil sur le visage de votre partenaire. C'est super chouette de voir la lumière naturelle sur l'autre. De voir des fois, on était, je sais pas, à Aurillac ou des endroits où on avait des... Je sais pas,
des montagnes derrière, le mur attrape des bouts de paysage.
On est en train de parler de ça, donc c'est vraiment magique. Ouais. Après, c'est tellement bien pensé scénographiquement qu'à l'intérieur aussi, avec les éclairages qu'ils ont prévus, avec très peu, de manière très simple, parce que le mur, en fait, il est simple, c'est un mur.
Mais en fait, comme tu l'as dit très justement juste avant, il est multiple. Et du coup aussi, il crée plein d'espaces et plein de visions différentes. Donc ouais. Nous, on l'a vu dans les photos, etc. Et puis les gens nous l'ont dit. Mais, et avec les spectateurs, oui, ça évolue du coup. Déjà, l'impression, à mon avis, qu'ils ont en regardant le spectacle, en fonction soit... Et puis pour nous, pour l'attention, pour... enfin tous les spectateurs sont différents. Hein.
Et puis aussi si on joue dans une salle des fêtes ou dans un théâtre avec une estrade et une certaine distance, le lien va pas être le même, la proximité va pas être la même. Si tu surplombes les gens, si tu es au même niveau qu'eux, bon, bah, ça raconte pas complètement la même chose.
Vous avez un peu anticipé du coup ma question suivante, mais ce soir vous jouez à Briançon, qui est donc un environnement qui est particulièrement sujet au thème de la pièce. Est-ce que ça a une influence sur votre appréciation de la pièce, dans le jeu, dans la manière dont vous produisez, où vous êtes parfaitement neutre vis-à-vis de cet environnement et donc ce public qui a peut-être une attente particulière vis-à-vis de cette pièce, vu que c'est quelque chose qu'ils connaissent très bien?
Ah bah oui. on n'est pas neutre. On est, la question de là où on est, effectivement, je joue. Pour moi, je sais pas si c'est différent. Moi qui fais l'alpiniste et tout, j'avoue que d'être à Briançon, il y a un moment où je mets mon baudrier et je manipule des mousquetons, j'ai pas envie de me louper, quoi. J'ai pas envie qu'il y ait un guide au premier rang qui regarde, qui se dise, le gars là, qui sait pas mettre son baudrier, il dit qu'il a monté la face sud de l'Annapurna. C'est un peu une blague, mais je veux dire dans le sens où comme on n'est pas... C'est du vrai faux, mais je veux dire, on essaye d'être dans quelque chose de sensible et un peu authentique dans ce qu'on raconte avec les petites actions qu'on a à faire. Et c'est vrai que de savoir qu'il y a potentiellement des gens qui pratiquent la montagne, ce qui n'est pas mon cas, qui pratiquent l'alpinisme et tout, même sur le vocabulaire, sur la manière d'en parler, même si tout ça n'est pas... Enfin, je veux dire, on ne cherche pas l'authenticité ultime, c'est pas complètement comme ça, mais... Ouais, en tout cas, moi, j'ai le trac. Tu m'as pris en son. J'ai les boules.
Non, moi pas spécialement. Mais bon, moi je joue l'acteur, donc moi je suis content d'être à la montagne. J'arrête pas de dire, on est dans le décor de la pièce, c'est trop bien. Je crois que je suis trop. Non, mais je comprends. Après, comme la pièce n'est pas sur ces termes techniques, sur ces choses-là, etc. et tout, il y a peut-être une attente, mais oui, peut-être, je sais pas. Après, ce sera drôle s'il y a des gens qui viennent me dire.
J'ai appris que Benjamin Védrine avait son camp de base à Briançon, je me dis s'il vient ce soir, waouh. Tu vois qui c'est,
Benjamin Védrine ? Non.
Benjamin Védrine, l'alpiniste qui redescend là du K2 et du Rano dans l'Himalaya, qui vient d'ouvrir.
Okay.
J'avais Vertical Magazine, là,
tu m'as montré les
super photos, c'est Benjamin Védrine et son acolyte. Là.
Est-ce qu'il y a un parallèle entre aller... au bout du sommet, au sommet, et aller au bout d'un rôle. Du coup, c'est peut-être ça qui est retransmis aussi un peu à l'image d'un des personnages. Aller au bout à quel prix ? Donc, comme vous l'avez mentionné avec la découverte de son père mort dans la crevasse, des dangers, aller au bout à quel prix ? Donc, quel sacrifice ? Est-ce que vous le ressentez, ça ?
C'est une super grande, super longue réflexion qui touche au métier d'acteur. Il faudrait faire un podcast.
Non, mais moi je reprends. Je suis pas du tout alpiniste et tout ça. Et tout ça. Mais j'aime bien lire les récits, surtout en plus quand il y a pas mal d'alpinistes qui peuvent des fois trouver les bons mots pour raconter. Et c'est vrai que la question du sommet est d'ailleurs peu emmenée chez certains alpinistes qui ont fait des performances ou à une grande dépression derrière. C'est-à-dire de se dire je suis monté au sommet, mais finalement une fois que tu l'as touché, le sommet. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Enfin, tu te rends compte que finalement, le sommet, il représente pas grand-chose. Ou c'est quelque chose que tu cherches à atteindre, et une fois que tu l'as atteint, il n'existe plus. Enfin, il s'annule. Alors, je ne ferai pas une métaphore avec le théâtre, mais l'idée même du sommet, quand on joue quelque chose, moi, ne me parle pas, parce qu'il n'y a pas de... Et par contre, si c'est pour reprendre la métaphore du sommet de Benjamin Védrine qui monte sur le cadeau, ou quoi, pour dire que finalement une pièce elle est toujours à vivre et si tant est qu'on touche quelque chose, à partir du moment où pour soi on vibre dans quelque chose, bah aussitôt ça disparaît. Donc tout est à refaire. Et c'est ça qui est magnifique dans le théâtre, c'est que la réussite d'un soir, c'est balle neuve le lendemain, c'est jamais, c'est toujours à revivre. Donc il n'y a pas de fin, il n'y a pas de sommet attrapé en tout cas.
Ouais, puis moi le truc où je comprends enfin en tout cas personnellement avec les alpinistes, c'est que je comprends l'idée de la dépression une fois. Allez, je mettrai pas un parallèle un rôle avec un sommet, mais en fait un rôle pour moi c'est un petit sommet.
Donc c'est quelque chose qu'on va essayer, qu'on va rentrer, qui nous rend plus ou moins heureux. Et des fois, quand il nous rend très heureux ou qu'on a donné beaucoup ou quoi, qu'on a traversé quelque chose, après, moi, je sais que je peux être très déprimé ou très triste de quitter une équipe, de quitter un rôle, de quitter et de se dire... Allez, c'est peut-être un peu gros, mais en même temps non, parce que c'est quelque chose de l'ordre de la performance. Il quitte, il se dit, ah, c'est quoi le suivant? Et moi, je me dis, ah ben ça va être quoi le projet suivant? Où est-ce que on va être emmené? Est-ce qu'il me fait vibrer autant? Est-ce qu'on va être content? Est-ce qu'on va faire un truc? Il y a des petites parallèles. Parce que quand même, je sais que quand je regarde les exploits sportifs ou l'alpinisme ou quoi, des choses qui ont pu m'intéresser, c'est certainement parce que je fais des parallèles avec, avec le métier voilà.
Bah du coup, pour rebondir un peu sur ce que vous venez de nous dire, est-ce que le spectacle donc, qui aborde ça vous a fait repenser votre rapport entre fiction et réalité, de revoir un peu les parallèles ou les différences que peut y avoir entre les deux aspects?
Plein pot. Plein pot.
C'est-à-dire quoi?
Bah, plein pot, à fond.
À fond.
À fond, tu sais bien, on en a parlé. Non, vraiment, vraiment. Moi, j'ai eu beaucoup de parallèles avec ce spectacle et, qui se sont passés dans mes... Voilà. Et vraiment, voilà. Et donc, ça m'a fait vraiment bizarre. C'est très, très étrange quand le théâtre, des fois, ou la fiction se rapproche de la réalité de choses que vous vivez à ce moment-là. Et on en a beaucoup parlé avec l'auteur. Enfin, je conseille aux gens, je ne sais pas si les textes de Mariano sont édités, mais je veux dire, il travaille beaucoup sur le rapport réalité-fiction et ça l'intéresse beaucoup, tout ça. Moi, c'est un truc qui me passionne aussi, c'est pour ça que j'avais envie de travailler avec lui. Mais c'est vrai que c'est très intéressant de voir comment des fois... la fiction peut avoir un écho dans nos vies ou inversement. Nos vies peuvent avoir un écho dans la fiction... Voilà, quand on rencontre des gens qu'on joue, des choses comme ça, c'est très étrange, très étrange.
Pour une note peut-être un peu plus légère, est-ce que vous avez un souvenir ou un détail, une question d'un spectateur qui vous a particulièrement marqué depuis le début de la tournée sur ce spectacle particulièrement?
Récemment, là, on tournait dans Drôme et Ardèche et il y a un spectateur qui nous accueillait dans une commune et qui a envoyé à la Comédie de Valence, son interprétation de la pièce. Et j'avoue que j'y pense souvent parce que c'est la première fois que quelqu'un formule une interprétation vraiment à des années-lumière, je pense, de ce que Mariano a voulu écrire et qui est parti, qui a pris la pièce complètement par le biais psychiatrique. De finalement, ils ne sont pas deux, il n'y en a qu'un, il a une maladie mentale, sa fille n'existe pas, et finalement, c'est une grande pièce sur la schizophrénie. Et j'avoue que ça nous a fait beaucoup...
Bien dit, hein. On était... enfin, ce qu'il
a super, vraiment comme quelqu'un qui a tiré le fil avec tous les éléments, qui est un peu... Voilà, il y a des petits cailloux qui sont semés dans l'écriture, donc il a un peu... Et il a fabriqué une interprétation que je trouve, non pas qu'elle vient d'éteindre sur ce qu'on est en train de faire en jouant la pièce, mais ça me plaît dire maintenant, j'y repense quand tu parles de ta maladie et tout ça. Le double, le fait qu'aussi l'univers de la pièce, là, ces deux hommes parallèles qui parlent ensemble l'un à côté de l'autre et tout ça, effectivement. Et puis cette ombre vorace, le titre aussi met sur cette... Enfin, ça peut être mille choses, l'ombre vorace, ça peut être la montagne, ça peut être le père, ça peut être la maladie mentale, ça peut être le double en nous, ça peut être le diable en nous, je sais pas. Donc du coup, cette interprétation, je dirais que c'est celle qui était la plus originale et après avoir beaucoup rigolé, je continue d'y penser.
Oui, c'est sûr. Il y en a eu beaucoup, franchement. Ouais. En plus de faire du théâtre itinérant, c'est un truc qui est vachement... Tu le disais la fois dernière, mais on va chez les gens, en fait. Même là aussi, enfin, je veux dire, si on vient, on n'a pas créé le spectacle ici, mais du coup, je ne sais pas. Et on rencontre beaucoup plus facilement les gens que d'habitude. Donc, on a eu beaucoup de retours, de gens qui parlent.
Et bon, finalement, pour résumer un peu cet entretien, en une phrase, est-ce que vous pourriez nous dire ce, du coup, une ombre vorace fait vivre aux deux personnes qui l'interprètent sur scène? Qu'est-ce que ça vous procure comme émotion, comme sentiment?
Tu veux dire quel serait du coup le sens de cette ombre vorace qui nous touche le plus ou qui nous parle le plus? Moi je dirais que c'est celle, si je sais pas, la pièce de Mariano, il utilise la montagne, mais il utilise ses récits épiques de la montagne pour peut-être parler en dessous du rapport de ces hommes avec leur père. Je ne sais pas, cette ombre vorace, oui, c'est plus que l'Annapurna ou je ne sais pas quoi. Si ça résonne en moi, c'est dans... c'est quoi cette ombre vorace? C'est quoi ce poids de l'héritage avec les pères, mais aussi de manière familiale. C'est qu'est-ce que je fais de ceux qui sont avant moi et à quel point ils me libèrent ou ils m'écrasent. Voilà, cette ombre vorace là dans la pièce a plutôt une connotation négative, comme un empêchement à devenir soi. Et si je le prends à mon compte, l'ombre vorace dans ma vie, évidemment, j'en ai plein d'ombres vorace. Et il faut essayer de les nommer pour pouvoir s'en débarrasser et vivre sa vie pleinement.
Ouais, il y a beaucoup. En tout cas, quelque chose de l'ordre de la, je dirais, de la rencontre. Quelle rencontre ? Il y a beaucoup de rencontres. Je trouve qu'il y a beaucoup de rencontres. Il y a de la rencontre entre deux personnes, évidemment, qui sont l'alpiniste et l'acteur, mais il y a la rencontre aussi avec les pères et en effet ce qu'on en fait, et aussi une espèce de rencontre avec soi-même, je trouve, qui traverse tous les deux, qui est assez belle. Et j'ai l'impression que c'est démultiplié comme ça dans la pièce. Voilà.